I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
La météo aujourd'hui est vraiment pas compliquée. C'est soit des averses, soit des orages pour toute la journée, incluant la soirée. Donc, il va pleuvoir, ça c'est certain. Ouais, on va le laisser aller. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Pascal, qu'est-ce qu'on a comme information actuellement?
C'est le temps d'être triste sous la pluie. Si vous voulez pas vous faire voir, par contre, c'est pas le temps de rouler en, comme dirait la Ville de Québec, colon sur nos réseaux routiers, parce que c'est plein d'eau, hein, des roulières, aquaplanage et tout ça, puis on voit les impacts. L'autoroute 20 Est, hauteur chemin du Sault, kilomètre 314, la voie est partiellement entravée parce qu'il y a de l'accumulation d'eau. 20 Est et Ouest, hauteur chemin du Sault, du côté du 314, oui, mais il faut faire attention aussi sur la 20 Est, parce que quand on arrive de cette voie-là, là, c'est un ralentissement que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas nécessairement décélérer et vous allez arriver de plein jet, c'est le cas de le dire, dans ces roulières-là. Et c'est ce qu'on nous disait au 88-971-1021. Fermeture de la route 136 ou le boulevard Champlain, c'est plein d'eau. C'est plein d'eau. On a fermé ça entre la côte Gilmore et l'autoroute Henri IV. Sinon, je m'en vais du côté de Duplessis-Sud dans l'accès pour le pont Pierre-Laporte, la voie droite qui est partiellement entravée, accumulation d'eau également.
La coalition Avenir Québec est dans les problèmes à la grandeur du Québec. Quand on regarde les sondages, il reste, s'il y avait des élections demain matin, il resterait pas grand député debout, de ce qu'on comprend. Il y a certains ministres aussi qui sont dans l'eau chaude avec leurs différents portefeuilles. C'est le cas, entre autres, dans les derniers mois de Bernard Drinville pour ces fameuses coupures qui demandaient aux syndicats des enseignants, en fait, dans le système d'éducation. Et hier, on a fait volte-face. Hier matin, on a appris que Bernard Drinville, qui est assez sous pression, on va se le dire, a décidé de réinjecter 540 millions de dollars qui va être destiné spécifiquement au service aux élèves. C'est drôle la façon dont on vend la patente, Pascal, parce que c'est comme si on disait on va donner de l'argent pour les élèves, mais prenez pas cet argent-là pour autre chose. Comme si on allait oublier ce qu'on avait fait avant, tu sais, avec les fameuses coupures. C'est qu'ils ont fait une erreur, ils veulent tellement pas l'admettre que quand ils réinjectent l'argent qu'ils étaient supposés d'injecter, soit dit en passant, quand ils réinjectent l'argent, ils disent « Ah, OK, on va donner l'argent, mais il faut vraiment que ça aille du côté des élèves. »
Quand c'est eux qui ont quand même le droit de regard puis l'application là-dedans.
Oui, c'est assez particulier de la façon dont ça a été expliqué. On a le plaisir d'en jaser avec Sylvain Duclos, l'excellent Sylvain Duclos qui est enseignant et commentateur. Comment ça va, Sylvain?
Super bien, merci à vous deux.
Quand vous avez appris toutes les coupures qu'on vous demandait dans le réseau de l'éducation, comment ça avait été perçu par toi, par tes pairs?
Mais écoutez, ça, on le croyait pas au départ, à quel point c'était à la dernière minute. On s'entend que les directions d'école, les centres de services ont appris ça le 12 juin et que ça avait comme implication, c'était astronomique dans les écoles. On y croyait juste pas les premières journées. Ça a pris comme une semaine là, à digérer ça avant que les gens sortent sur la place publique et fassent comme « regarde, ça n'a aucun sens ».
Est-ce que les gens broyaient? Parce que moi, ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il y a des enseignants qui étaient tellement à bout de souffle que quand ils ont appris ça, là, ils se disaient « je ne sais pas comment je vais faire pour passer ma prochaine année. Il y a encore des élèves qui ont besoin d'aide qui n'en auront pas cette année puis c'est moi qui vais se ramasser avec les problématiques. » C'est-tu vrai qu'il y a des enseignants qui sortaient des réunions en broyant?
Ben, moi, c'est des choses que j'ai entendues. C'est pas ce que j'ai vécu dans mon milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis au secondaire. Je pense que c'est peut-être un peu plus difficile au primaire. Maintenant, c'est surtout les directions d'école qui ont eu des décisions difficiles à prendre de, laisser aller du personnel de soutien, des TES, des orthopédagogues qui donnaient du soutien directement aux élèves. De leur dire, ben là, vous autres, vous êtes là depuis une couple d'années, mais là, c'est ciao bye, on n'a pas besoin de toi parce qu'on n'a pas l'argent pour vous autres l'année prochaine. C'est ça. Parce que les enseignants, en tant que tels, nous, on appréhendait la prochaine année en se disant, il n'y aura pas de service aux élèves, ça va être plate, il n'y aura pas d'activité, rien. Mais en même temps, nous, on va se le dire, au niveau syndical, on est quand même assez backé. Il ne s'est pas coupé beaucoup de postes d'enseignants.
Mais il y avait
certains... Oui, allez-y. Ben, en fait, il y a certains endroits où est-ce qu'ils ont décidé de monter le nombre d'élèves par classe, donc fermer des classes, par exemple, de l'adaptation scolaire, pour mettre plus d'élèves dans chaque classe, pour essayer de compenser puis sauver quelques sous là, mais c'est vraiment la seule place que ça touchait directement les enseignants.
Ouais, mais tout le monde saigne un peu dans son département, puis on est en train de faire des coupures pour essayer de colmater une brèche qui est à cœur ouvert malgré tout dans un autre secteur. Mais on, quand on entend, il faut que ça aille vraiment aux enfants, il faut comprendre que ça va aussi dans des salaires, dans des heures de plus qu'on va donner à des ressources importantes. Puis les enfants ont malheureusement, par la situation, payé beaucoup en pandémie. Il y a eu des retards qui ont été concrets puis qui sont vus par les enseignants. Il faut faire attention, je pense, dans le fait de dire que ce n'est pas des salaires ou autre. Est-ce que je me trompe?
Ben, en fait, ça va nécessairement devoir être des salaires parce que si on veut pouvoir donner de l'aide aux enfants, je veux dire, ça arrive pas, on n'achète pas de l'aide, là. Ça va être des orthopédagogues, ça va être des éducatrices spécialisées qui vont venir aider les enfants. Donc, ça implique d'engager du monde. 75% du budget en éducation, c'est des salaires. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Bien entendu, là, moi, j'ai un peu ri, là. J'ai beaucoup aimé votre introduction, d'ailleurs, au départ. C'est exactement ça. Est-ce que vous pensez réellement que les directions et les centres de services scolaires se sont dit « Ah, l'argent revient, on va se payer un voyage dans le sud, on va se faire des gros buffets ». Ben non, clairement que l'argent doit aller dans les services aux élèves. Et on était rendu à couper dans tout, dans l'aide alimentaire, dans les formations des enseignants, etc. On roulait pas sur l'or dans la plupart des centres de services scolaires.
Sylvain Duclos, exemple, là, si l'orthopédagogue peut pas être là, qui doit compenser? C'est vraiment l'enseignant directement.
C'est l'enseignant directement, puis c'est ça le problème. Si je regarde dans une classe au secondaire, une classe de régulier au secondaire, on peut avoir entre 30 et 50 d'élèves ayant des retards d'apprentissage, des difficultés qui sont à différents niveaux, des difficultés qui sont diverses. Donc, l'enseignant doit s'adapter. Il a l'obligation d'adapter son enseignement et l'aide qu'il donne à chacun des élèves. Donc, ça devient une tâche qui est, je vous le dirais, tout simplement impossible à un certain moment. Donc, c'est là que les orthopédagogues sont importants, les TES aussi. Et, c'est à noter, c'est que là, on a eu des coupures à la fin de l'année. Là, l'argent va revenir. Mais ces coupures-là, on a coupé des postes. Il y a des gens qui ont changé d'école. Il y a des gens qui ont peut-être trouvé d'autres emplois. On ne retrouvera pas l'orthopédagogue, Mme Annie de mon école, ça va dire qu'elle va revenir, là.
Qui était habituée avec les élèves, avec le personnel, qui travaillait dans tout ce qui est maison-école.
Exactement. On a coupé des liens, on a créé de l'instabilité dans le réseau pour pas grand-chose.
Moi, j'ai l'impression, c'est une critique qui ne regarde que moi, mais j'ai l'impression que la CAQ, au lieu de gérer le Québec, gère les communications. Ils ont énormément de difficultés un peu partout. Tu sais, je regardais la citation de Bernard Drinville qui dit « Les derniers mois nous ont permis de consulter les organismes scolaires et d'être à l'écoute du terrain. On a entendu les préoccupations et les besoins. Et c'est à la suite de ces consultations-là que le ministre se serait adapté et redonné le 540 millions de dollars pour les services aux élèves. » Mais pourquoi ça s'était pas fait avant, tu sais. Pourquoi vous n'avez pas consulté avant de couper?
Ben, en fait, je vous dirais que moi, ce qu'on me dit dans le réseau, là, c'est qu'on ne consulte pas beaucoup. Les décisions se prennent autour du ministre et au bureau du premier ministre. Puis on le voit clairement que la plupart des décisions, du moins en éducation, ça vient de gens qui ne connaissent pas le réseau scolaire. Dire on va enlever 540, 570 millions dans le réseau, puis dire ne touchez pas au service aux élèves, c'était de mal connaître le réseau scolaire, malheureusement. Puis il y en a eu là, des coupures dans les 20 dernières années d'autres gouvernements, dont sous François Legault lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Et à chaque fois, ça a toujours été les élèves en difficulté qui ont payé le prix, parce que c'est là qu'il y a comme une marge de manœuvre, parce qu'on n'a pas l'obligation de... Au final, c'est les jeunes qu'on veut le moins toucher, bien entendu.
Ouais, mais c'est l'impression que ça donne, tu sais. C'est-à-dire, on va couper parce qu'on va couper, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on consulte pas des Sylvain Duclos, des enseignants comme toi, des directeurs d'école. Hey, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact si on coupait tant d'argent dans la commission scolaire? On semble pas faire ça. Tout est décidé en haut au bureau du premier ministre, mais tu sais, la moindre des choses, ce serait de consulter au départ, puis par la suite, prendre des décisions sur ce qui est possible de faire, puis ce qui est impossible de faire. Il me semble que ça les mettrait peut-être moins dans l'embarras, puis en même temps, on écœurerait peut-être moins nos professeurs, que ce soit homme comme femme, en disant « Hey, cette année, t'as trouvé ça dur, hein? Mais l'année prochaine, ça va être encore pire. » Tu sais, c'est épouvantable ce que le gouvernement vous a fait dans les derniers mois, puis la pression qu'il a mis encore sur le système d'éducation, puis c'est toujours les enfants qui payent, mais les enseignants aussi par le fait même, parce que si vous êtes allé en enseignement, c'est parce que vous avez le désir du bien-être des enfants, puis le désir de les éduquer convenablement. Fait que là, toi, c'est ta passion, mais t'es pas capable de réaliser tes trucs que tu veux faire avec les enfants, puis les enfants sont mal servis. Ce serait tellement plus simple de consulter au départ avant de prendre ce type de grosses décisions-là.
Moi, je t'aurais arrêté à un moment donné dans ta phrase pour ajouter, il y a le lien aussi entre parents et enseignants qui commence à être coupé parce qu'ils paraissent comme s'ils demandent les choux gras année après année. Puis il commence à y avoir énormément de problématiques en arrière de ça. Puis ça fait en sorte que tout le monde commence à chicaner puis les enseignants sont mal vus. On ben, en parlera de ça.
Il y a comme une petite scission là-dedans. C'est-à-dire que oui, il y a des parents qui sont très réceptifs à ce genre de discours-là de les enseignants demandent plus, puis les réseaux scolaires, on dépense pour rien. Mais je vois là avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, beaucoup de parents qui se mobilisent, qui disent non, là, on va travailler avec les enseignants, on va travailler avec les écoles, puis on va s'assurer que l'éducation de nos enfants se fasse sur le sens du monde. Ça, c'est beau à voir.
Sylvain Duclos, ça a été un plaisir. On invite les auditeurs à aller sur ton site Internet. C'est assez simple. Juste à taper Sylvain Duclos sur Google et vous allez tomber dessus.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Salut. Plein de capsules super intéressantes de Sylvain Duclos, soit dit en passant. Beaucoup de sources d'informations sur son site Internet. OK, nous, on s'arrête, les amis. 1h10, on fait une courte pause. 418-971-1021, 418-971-1021. Juste avant, je te pose la question, Pascal. Penses-tu que la CAQ va être capable de remonter dans les sondages dans les prochains mois pour être un des deux partis privilégiés des Québécois aux prochaines élections?
Dans la situation actuelle, oui.
Ah ouais?
Malgré tout.
Il pourrait, parce que moi, j'ai l'impression que ça va être Parti libéral puis Parti québécois, là. Puis la CAQ va tout simplement être éradiquée de la carte.
Mais je suis pas convaincu, Pablo Rodriguez, avec les libéraux, que ça va monter
les
tant
gens,
ça.
Les gens n'ont pas de mémoire. Oui, mais les sondages sont favorables à Pablo, là.
Mais on verra, mais ouais. Tu me poses la question, je te réponds. Moi, j'ai l'impression que par la structure en place, avec tout le fait qu'on travaille sur le ministère de la Santé et autres, ils vont arriver avec des petites cartes, un petit joker une fois de temps en temps, puis ça va parler à des gens.
On fait une courte pause, on vient.